D'Istanbul à Dubaï, les hasards de Mehtap Teke.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Que se passe-t-il aujourd'hui à Dubaï et qu'est-ce qui s'est joué hier en Turquie ou le mois dernier au Kurdistan et l'avant-veille en Belgique? Notre invitée qui a des attaches avec tous ces coins du monde vit sans doute avec plusieurs points d'interrogation au quotidien ou pas. Bonjour et marhaba Mehtap Teke.
Bonjour Yasmine.
Certes, Mehtap Teke, 41 ans, est né à Charleroi, la ville de Magritte, dans une famille ouvrière d'origine kurde et turque. Et voilà qu'aujourd'hui, elle pense à cette famille dans le bleu des Émirats Arabes Unis. Mais franchement, sa maison réelle est faite entièrement de papier, car elle ne pense qu'à ça, écrire et lire. Elle vient de finir son deuxième roman, Heureux hasard, qui paraît chez Viviane Ami. Et elle n'arrête pas de relire les contemplations de Victor Hugo.
On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête. On se plaît aux livres des vieux sages, on lit Virgile et Dante. On va joyeusement en voiture publique à quelque endroit charmant, en riant aux éclats de l'auberge et du gîte. Le regard d'une femme en passant vous agite. On aime, on est aimé, bonheur qui manque au roi. On écoute le chant des oiseaux dans les bois. Le matin, on s'éveille et toute une famille vous embrasse. Une mère, une sœur, une fille. On déjeune en lisant son journal. Tout le jour, on mêle à sa pensée espoir, travail, amour. La vie arrive avec ses passions troublées. On jette sa parole aux sombres assemblées, devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend. On se sent faible et fort, on est petit et grand. On est flot dans la foule, âme dans la tempête, tout vient et passe. On est en deuil, on est en fête. On arrive, on recule, on lutte avec effort. Puis, le vaste et profond silence de la mort.
מה אתם יודעים על השורשים המשפחתיים שלכם?
לא חב, סיסי מה?
בואלה ימי סם דם זורו.
כסבבו דבוזן סטר.
Alors, en ce qui concerne mes ancêtres, du côté de mon père, il venait d'une famille kurde qui vivait dans les montagnes en Turquie, dans un village kurde, tout simplement, où on parlait kurde, à un point tel qu'enfant, mon père ne maîtrisait pas le turc. Et puis, il y a eu des interdictions de parler le kurde, notamment quand il était enfant. Donc ça, c'était du côté de mon père. Et puis du côté de ma mère, l'histoire est un peu différente. Là, ma mère vient d'une famille de Turcs, mais élevée dans les montagnes également, dans une ville non loin de l'Arménie. Et puis du côté de ma mère, c'est mon grand-père qui est venu dans les années 60 en Belgique, travailler dans les mines de charbon à Charleroi. Et donc ma mère est arrivée quand elle était enfant en Belgique. Et du côté de mon père, c'est différent. Donc pour lui, il est venu tout seul donc quand il avait une vingtaine d'années en Turquie pour travailler en Belgique en tant que couvrier. Et donc c'est finalement un mélange de ces deux cultures qui a créé la mienne.
Et puis c'est aussi un mélange de deux minorités.
Deux minorités et encore des minorités dans la minorité, en ce sens que mes parents sont tous deux de confession alévi, qui est également une minorité en Turquie.
Donc, une branche de l'islam.
Je dirais un courant un peu plus libéral de l'islam, donc assez, qui est bien évidemment proche du sunnisme ou du chiisme, mais qui a des différences, notamment dans la façon de prier ou dans la manière de pratiquer la religion.
Thank you.
Et si, au son du saz d'Arif Sag, vous nous racontiez pour un sol majeur un rituel alevi que vous connaissez, Metap Teke?
Comme je vous l'ai dit, les rituels sont très différents. Ici, les alevis vont se réunir non dans des mosquées, donc on ne prie pas dans les mosquées, mais dans ce qu'on appelle les djemevi. Donc ce sont les maisons de prière où hommes, femmes et enfants vont se rassembler tous ensemble. Ils vont prier, ils vont pratiquer des danses particulières. On va effectuer des mouvements circulaires et on va également se connecter à Dieu et simplement, comme la prière est très personnelle, faire les prières à Dieu tout simplement.
Alors on va s'arrêter sur l'histoire de votre père, car c'est une histoire que vous racontez dans votre premier roman, Petite, je disais que je voulais me marier avec toi, chez Viviane Ami également. On va en écouter un extrait, mais après une petite incursion dans ce pays, la Turquie, par les oreilles, grâce à Asik Vessel. Alors Vessel, ça s'écrit V-U-Y-S-E-L, hein, parce que là, vous voyez, la langue française, hein, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il chante dans Uzun inse bir yoldayim?
Donc Asik Vessel, c'était un compositeur, un chanteur, un poète. Quand il était enfant, il est devenu aveugle après avoir contracté la variole. Et malgré ça, il a persisté, il a appris à jouer du saz, à écrire des poèmes. Et il a donc écrit ce poème. À la base, c'était un poème, donc cette chanson. C'est un peu similaire au poème On vit, on parle de Victor Hugo, dans le sens. Oui, c'est donc... le titre veut dire « Je marche sur un long chemin étroit ». C'est une allégorie de la vie la mort, donc de la vie qui mène à la mort tout simplement, avec cet homme qui marche, et même quand il dort, il marche, et c'est, moi je pense, c'est ainsi que je l'interprète, c'est simplement la manière dont on vit à partir du moment où on va naître. Ben, on sait qu'il y a une seule certitude, c'est la mort, et on marche sur ce chemin quoi qu'il arrive.
Pour un sol majeur, Asik Vessel, parce que c'est quand même plus joli avec l'accent turc.
Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Düşünülürse derince uzak gözü kür görünce yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece.
Ton père s'avance vers toi. La sangle de son panier lui brûle la peau sans qu'il paraisse s'en soucier. Ses yeux sont rivés sur le coton que tu as ramassé. Ton tribut est maigre comparé à ce qu'on attend de toi. Inquiet à l'idée qu'il puisse te le reprocher, tu esquisses un pas en arrière pour lui échapper. Mais arrivé à ta hauteur, il se contente de plonger les deux mains dans sa récolte qu'il porte devant lui telle une offrande. Et il en ressort des poignées de fibres qu'il ajoute à ta cueillette. Il agit si vite que tu as à peine le temps de comprendre son geste. Ton panier se remplit à mesure que le sien se vide.
Merci Mehtap Teke pour cet extrait de Petite, je disais que je voulais me marier avec toi, où vous racontez donc l'histoire de votre père. Quel est le secret alors de cette scène que vous venez de lire ?
Donc c'est un peu au début du livre où donc le père de la narratrice commence à travailler à 12 ans dans les champs de coton. Donc le père l'a en quelque sorte condamné, entre guillemets, parce qu'il n'a pas le choix, il a dû le retirer de l'école et le faire travailler avec lui. Mais en même temps, il est là, il veille sur lui, il voit que son fils ne s'en sort pas dans la cueillette du coton. Et donc son père, pour éviter qu'il soit renvoyé, parce qu'il a besoin de l'argent à la fin du mois, donc travaille pour deux. Il lui donne sa récolte pour faire croire que son fils est apte à travailler dans les champs et pouvoir continuer à travailler avec lui.
Alors vous employez des mots très forts, hein, condamné, c'est arrivé tout de suite dans la conversation. Cette histoire, l'histoire de votre père, c'est l'histoire d'un sacrifice.
C'est l'histoire d'un sacrifice, d'une part du grand-père au père, on va dire, et puis du père à sa fille. Donc il y a comme une passation du sacrifice qui se met en place, parce que en fait, chaque génération espère que la génération suivante va monter dans la hiérarchie sociale. Et donc c'est un peu le cas ici. On a donc ce grand-père qui a dû retirer cet enfant de l'école, mais qui lui dit à la fin de sa vie, quitte ce village où tu ne pourras rien faire. Et c'est ce que le père fait, donc il s'en va en Europe et il travaille dur pour élever ses filles. Et puis, lui, il fait la même chose, en fait. Donc, il y a de nouveau ce sacrifice-là, en sachant pourtant que ses filles vivent dans de meilleures conditions que lui quand il était enfant. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il veut plus pour elles. Donc, de nouveau, on a à chaque fois une ascension sociale qui se met en place grâce au sacrifice de la génération précédente.
Mais c'est un sacrifice à l'aune d'une Turquie d'autrefois, que vous décrivez, évidemment. Une Turquie avec ses mariages arrangés qui font souffrir même les pères. Une Turquie avec ses codes d'honneur qui peut vous valoir un coup de canif pour un regard trop appuyé sur une jeune vierge. La Turquie d'autrefois avec son service militaire. Page 96, vous racontez que les origines ethniques y sont insultées. Est-ce que ça, c'est ce qu'a vécu personnellement votre père ?
Mais oui, le passage, donc, le chapitre sur le service militaire, c'était ça. Donc, mon père avait fait donc, son service militaire obligatoire en Turquie avant de venir en Belgique. Et c'était très difficile parce que, de par son prénom, on pouvait entendre qu'il était à Lévis, par exemple. Et donc, c'était assez difficile, finalement, parce que donc, la Turquie, ces années-là, encore aujourd'hui, quand il est issu de la minorité, mais à l'époque, encore plus. Donc, pour lui, c'était assez difficile, finalement. Mais il a serré les dents, il a fait avec, en sachant qu'il avait des objectifs qui le mèneraient ailleurs.
C'est une Turquie d'une grande pauvreté. Vous décrivez aussi l'asservissement à la terre et de la génération du grand-père et de la génération du père. Mais en même temps, là, j'ai plus envie de me rapprocher de votre plume à vous, Mehtap Teke. C'est que la pauvreté, c'est un thème littéraire que vous chérissez, j'ai l'impression.
Ça fait partie de ce que je suis. Ça peut être étrange à être dit comme ça. Mais
vous êtes une lectrice de Dickens, par exemple.
Que j'ai tellement aimé, Dickens, il y en a d'autres, hein. Là, le petit chose qui me vient en tête, qui est vraiment très prenant, c'est surtout les enfances pauvres qui m'ont toujours beaucoup touchée, peut-être dû à l'histoire de ma famille.
Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement à vous d'écrire et de romancer hein, en même temps ce récit familial ?
C'était une sorte de consécration pour moi, dans le sens où...
C'est un mot fort, hein ?
C'est un mot fort, ouais. C'est vrai. Mais c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit. Je me dis, je l'ai fait. C'était un rêve que j'avais et que je voulais vraiment réaliser.
Votre rêve, c'était quoi à vous ?
D'écrire, de devenir écrivain.
Est-ce que votre père a pu lire « Petite, je disais que je voulais me marier avec toi » ?
Mais en fait, ma mère lui a lu, parce que mon père ne lisait pas très bien le français. Et donc, oui, il a eu l'opportunité de le lire.
Mais ça, c'est très joli, ça. Il peut y avoir des larmes dessus, mais ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que son récit de vie à lui, qui a été l'histoire d'un sacrifice, il est gravé noir sur blanc aujourd'hui. Et il peut se transmettre dans la famille et au-delà même du cercle familial.
C'est tout à fait ça. C'est ce que je m'étais dit aussi. dans le sens où tout le monde n'a pas la chance d'avoir son histoire couchée sur du papier. Et en fait, son histoire va rester pour toujours.
On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête. On se plaît au livre des vieux sages, on lit Virgile et Dante. On va joyeusement en voiture publique à quelque endroit charmant, en riant aux éclats de l'auberge et du gîte. Le regard d'une femme en passant vous agite. On aime, on est aimé, bonheur qui manque au roi. On écoute le chant des oiseaux dans les bois. Le matin, on s'éveille et toute une famille vous embrasse. Une mère, une sœur, une fille. On déjeune en lisant son journal. Tout le jour, on mêle à sa pensée espoir, travail, amour.
S.
La vie arrive avec ses passions troublées. On jette sa parole aux sombres assemblées devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend. On se sent faible et fort. On est petit et grand. On est flot dans la foule, âme dans la tempête. Tout vient et passe. On est en deuil. On est en fête, on arrive, on recule, on lutte avec effort. Puis, le vaste et profond silence de la mort.
S.
S. Comme ces âmes.
S comme sacrifice aussi, puisque c'est un mot qui est déjà revenu plusieurs fois. Moralité, mehtapteke, le sacrifice de votre père, c'est un mot qu'il faut déplier parce qu'il y a un trésor au cœur de ce mot, puisqu'il a produit chez vous un goût particulier, à la fois pour l'instruction, mais même au-delà, pour le savoir. Est-ce que c'est juste un goût ou est-ce que c'est une forme de responsabilité chez vous?
Je pense que c'est un peu des deux. C'est une passion dès le départ. Quand je parle du savoir, je parle surtout de la littérature, de la curiosité littéraire, on va dire. Et puis, une curiosité qui est devenue très vite une responsabilité pour moi. Et puis, une façon de prendre une revanche sur la vie et de dire... je n'ai pas envie de dire si on veut, on peut, parce que parfois, je sais que si on, même si on veut, on ne peut pas. Mais on peut essayer, du moins.
Alors, vous êtes une adepte d'une certaine littérature. On vient de réentendre le poème qui a ouvert l'émission, celui de Victor Hugo, et qui est extrait des Contemplations. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Victor Hugo et dans les Contemplations en particulier?
Victor Hugo, je suis tombée dessus quand j'étais enfant. Et il m'a vraiment marquée parce que j'ai compris à ce moment-là, en lisant, en découvrant Victor Hugo, la différence entre l'écrivain et le génie littéraire. Il y a chez Victor Hugo, en tout cas dans son œuvre, une façon de susciter des émotions. Et donc les Contemplations, donc ce recueil de poèmes, donc celui qu'on vient d'entendre, ce sont des poèmes qui sont profondément dans ce courant romantique finalement. Où on va avoir,
J'attendais le mot.
On va avoir les émotions exacerbées hein, finalement, mais qu'on ressent vraiment dans ce poème-là. Je pense qu'à la fin, il écrit de retour du cimetière, mais on ressent la peine. Son âme est en peine, on peut vraiment le ressentir. Il y a un petit côté pessimiste dans ce poème, mais finalement c'est la vie, simplement.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le romantisme, c'est aussi le royaume des états d'âme?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un courant qui est vraiment... c'est celui que moi j'apprécie le plus. J'aime bien quand je lis un livre... au-delà de l'intrigue, l'intrigue m'intéresse beaucoup moins en général. Moi, j'aime bien ressentir des émotions. Et je pense que c'est une manière de plonger vraiment dans l'histoire et de s'assimiler au personnage, finalement, quand il ressent ces émotions-là.
Est-ce que vous avez eu des chocs romantiques liés à la peinture aussi?
Moi, j'aime bien, par exemple, Van Gogh. Mais bon, c'est parce que c'est assez spécial. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'aussi, il suffit de regarder une peinture et on ressent toutes ces émotions, hein, finalement. Donc, je mettrai ça dans le courant romantique.
Alors, on a Hugo d'un côté, puis je vous ai demandé qu'est-ce que vous lisez d'aujourd'hui chez les contemporains. Vous m'avez cité Christian Bobin, Amin Maalouf, Khaled Hosseini, l'auteur afghan installé aux États-Unis, l'auteur des cerfs-volants de Kaboul, ou encore Yashar Kemal, qui est un auteur turc d'origine kurde. Et alors, on n'a pas traduit ce qu'il va dire parce qu'on s'est dit que vous alliez le faire.
Benim için ayrı bir önemi vardı bu romanın. Elbette bu kadar uzun yıl çalışmamın da bu roman üstünde bir sebebi olmalıydı. İşte yıllarımı verdiğim bir roman oldu bu. Ve bitirdikten sonra şöyle diyebildim. İlk olaraktan romana yaklaştım. Diyebildim ki bu benim için gerçekten bir savdı.
Vous me faites signe non de la tête, Mehtap Teke, l'air désolé, vous n'arrivez pas à traduire, à comprendre vraiment ce que dit Yashar Kemal?
Oui, non, non, le turc que je parle est assez, on va dire, différent au niveau de l'accent, etc. Et ici, on a vraiment un langage soutenu, peut-être, qui m'échappe.
Alors, je donne juste un petit repère, son premier roman, Mehmed Le Mince, il connaît un succès extraordinaire en 1955, qui lui vaut d'être pressenti pour le prix Nobel de littérature en 72. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous touche chez lui?
Déjà, c'est l'homme en lui-même. C'est un écrivain qui a aussi une vie fascinante. Je pense qu'il a été le témoin de l'assassinat de son père. Il a perdu un œil. Enfin, il a arrêté d'étudier très jeune parce qu'il devait travailler, justement. Et malgré les difficultés, c'est vraiment ce que j'aime particulièrement chez ces hommes-là ou chez ces femmes-là, c'est la résilience. C'est de se dire, j'essaie encore et encore. Et lui, quand même, c'est fascinant de savoir de là où il est parti et de finalement se dire que cet écrivain-là est devenu l'écrivain turc par excellence, le plus grand écrivain turc de toute génération confondue. Je sais qu'aujourd'hui, on en a d'autres, hein, Elif Shafak, Orhan Pamuk. Oui. Mais je pense que Yashar Kemal, c'est un niveau au-dessus. C'est un écrivain qui va aussi beaucoup mettre en avant cette Turquie rurale et va la mettre en contradiction avec la transformation industrielle, finalement, dont il a été le témoin. Et donc, la saga, le Mehmet Le Mince, c'est une sorte de Robin des Bois contre les riches propriétaires terriens. Et je trouve ça fascinant qu'il soit parti de son histoire et qu'il soit parvenu à réaliser tout ça, finalement. Il a inscrit son nom dans l'histoire pour toujours. C'est fascinant.
Alors, on va voir si vous êtes fascinante, vous aussi. Il se trouve que dans votre nouveau roman, Je vous taquine, il n'est plus du tout question de la Turquie et il n'est pas question non plus de récit familial. Page 16 de Au hasard heureux, nous sommes sur la 28e rue en plein Manhattan, à New York.
Ce fut à cet instant que j'aperçus la jeune femme qui se tenait près de moi sous le porche, elle aussi. Elle ne possédait pas de parapluie, n'avait pas d'imperméable. Sur ses épaules carrées, elle avait posé une simple veste de tailleur, d'une marque de luxe, aux manches si longues qu'elles lui tombaient jusqu'aux doigts. Entre l'index et le majeur de sa main droite, elle tenait une cigarette. Je l'observais, intrigué, tandis qu'elle la portait à ses lèvres. J'allais poursuivre ma route quand un détail sur son visage me frappa. Ses iris, ils avaient des couleurs différentes. Son œil droit était marron, d'une banalité accablante. L'œil gauche, en revanche, était vert. Un vert éclatant, déroutant. C'était la première fois que je voyais une personne aux yeux verrons. J'étais fascinée, autant par leur rareté que par leur beauté. Une autre chose me frappa chez cet inconnu. Sa mélancolie, sa tristesse, logée au fond de ses yeux, me déchira le cœur. Je la ressentis jusque dans mes tripes. Jamais je n'avais vu un tel malheur dans un regard. Can't start a fire without.
Bruce Springsteen's dans votre roman Au hasard heureux qui paraît chez Viviane Ami.
Donc j'ai vécu à New York moi-même au début des années 2000, j'étais jeune, hein. J'avais 23 ans à l'époque.
Ça va encore.
Donc j'ai vécu là-bas et alors j'avais pas vraiment de connaissances musicales particulières. Je connaissais Bruce Springsteen mais de nom et c'est tout. Et quand j'ai vécu à New York, j'avais un colocataire. Quand son petit ami venait à la maison, ils écoutaient, ils adoraient Bruce Springsteen et ils essayaient de me convaincre à quel point Bruce Springsteen était un chanteur fascinant, un artiste vraiment, et aussi un homme d'engagement. Donc ils m'expliquaient tout ça. Et maintenant, à chaque fois que j'entends Bruce Springsteen à la radio, bah, je pense toujours à New York, ça me ramène à New York.
C'est un hommage à votre parenthèse new-yorkaise. Alors dans votre roman, on a deux personnages féminins finalement que tout oppose. Comment vous décririez Iba et Adélaïde ?
On va commencer par Adélaïde parce qu'elle est plus dans la norme, on va dire. Donc Adélaïde, c'est cette jeune femme d'une vingtaine d'années qui a abandonné ses rêves après quelques échecs. Donc elle rêvait de devenir artiste peintre et d'entrer aux Beaux-Arts de Paris. Mais elle a échoué au concours d'entrée. Et donc, elle a baissé les bras et elle se retrouve justement à New York par hasard. Et puis, elle rencontre cette jeune femme qui est son opposée, en tout cas en apparence. Mais au fond, quand on creuse, on se rend compte qu'elles ont toutes les deux cette mélancolie et solitude en elles.
Ce personnage, Iba, très belle, vous dites, elle a des yeux verrons et elle est née à Oran, en Algérie. Comment est-ce qu'on décide de doter son personnage, par exemple, de ces deux signes particuliers ?
Alors, les yeux verrons, c'était, je pense, nécessaire pour expliquer aussi la fascination d'Adélaïde pour ce personnage qui est vraiment unique. Donc ça se justifiait notamment, je cherchais une caractéristique physique qui soit unique. Et puis Oran, je voulais apporter une touche de nouveau différente d'Adélaïde. C'est-à-dire qu'Adélaïde voilà, a une vie assez ordinaire finalement. Et donc elle tombe nez à nez avec cette jeune femme qui, elle, vient d'ailleurs, vient d'Oran. Et donc je voulais justement mettre l'accent sur la différence qui existe entre ces deux jeunes femmes.
Alors au fil de la lecture, va s'installer une sorte de mystère autour de Iba d'un côté. On ne sait rien de son passé en Algérie, si ce n'est qu'il y a quelque chose peut-être de traumatique qui s'est passé. De toute façon, dit-elle, à partir d'un certain âge, on est sa propre famille. Point final. Et puis de l'autre, on a l'extrême banalité, effectivement, apparente d'Adélaïde. C'est-à-dire que vous mettez en place une emprise de l'une sur l'autre. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette problématique de l'emprise ?
Moi, ce qui m'intéressait, c'était de creuser la psychologie qui touche à l'amitié et jusqu'où elle peut aller.
Vous dites l'amitié, vous ?
C'est vrai que c'est entre les deux. On flirte avec l'amour. C'est un entre-deux, en quelque sorte. Mais je voulais explorer cela. En fait, je voulais explorer une amitié qui devient obsessionnelle. Et pourquoi elle devient obsessionnelle et jusqu'où elle peut aller à l'obsession et à cette emprise, parce que très vite, il y a une emprise qui est aussi bien d'un côté que de l'autre. Elles se raccrochent l'une à l'autre, elles ne veulent pas se perdre l'une l'autre, donc elles ont toutes les deux cette obsession. Mais nous, comme on a le point de vue d'Adélaïde, forcément, c'est celui qui nous marque.
Vous jouez aussi sur un autre motif, qui est l'alcool. L'une boit, l'autre pas au début, et puis celle qui ne boit pas va commencer à aimer ça, parce que ça la désinhibe. Vous jouez là aussi sur une forme d'ambivalence de l'ivresse liée à quoi finalement ? Est-ce que c'est une ivresse qui est liée à l'alcool ou à l'état amoureux ?
Je pense plus à l'état, à la façon dont elles vont voir les choses. L'alcool va permettre à Adélaïde de se libérer aussi des barrières qu'elle s'est imposées au final. Je pense que ça lui permet aussi de se rapprocher de Iba ainsi.
C'est une histoire qui ne pouvait se passer qu'à New York ?
Non, pas nécessairement. Ça pouvait se passer ailleurs. Il fallait une expatriation, on va dire, pour justifier qu'elles se raccrochent très vite l'une à l'autre.
L'une lit les philosophes, Nietzsche et compagnie, l'autre pas. L'une peint et peut-être que celle qui ne peint pas ne dit pas tout. Un soir de vernissage qui est organisé par un intrus, mais là il faut lire le roman parce qu'il y a effectivement l'apparition d'un certain Andrea, qui va devenir le nouvel amoureux de Iba. Après avoir longuement hésité, Adélaïde finit par se rendre à ce vernissage, où, en connaisseuse, puisque finalement elle a fait les Beaux-Arts, elle ne trouve pas du tout que les tableaux exposés sont de grande facture, sauf un. Au hasard heureux, extrait.
C'était le portrait d'une femme, aux cheveux dorés et à l'air quelconque, perdue au milieu d'une foule. On ne discernait aucun trait, aucun visage hormis le sien. Seules des ombres l'encerclaient, surgissant de toutes parts. Dans le regard de la femme, il y avait de la mélancolie, une déception trop lourde à porter. Elle était si expressive que je pouvais la ressentir en moi rien qu'en y posant les yeux. C'était ses pupilles sombres et terrifiantes sur sa figure atterrée qui arrivaient à créer ce malaise. Ce qui était fascinant, c'était l'environnement dans lequel l'héroïne évoluait. Bien qu'entourée, elle demeurait isolée. Pour nous qui l'observions depuis notre monde, elle était le centre de l'univers. Dans le sien, elle était invisible. Les ombres autour d'elle l'ignoraient, et tout son être exprimait cette solitude qui l'accablait. À ce stade de mon histoire, vous vous demanderez sans doute comment a-t-elle pu mettre autant de temps pour comprendre ? Mais je vous assure que sur le moment, la vérité ne me sauta pas aux yeux. J'étais face à mon double, dans un milieu semblable au sien, et j'étais incapable d'en prendre conscience. Oui, ces traits, sur ce visage sombre, c'étaient les miens. Je scrutais ma vie dans un miroir, et il me fallut plusieurs minutes pour m'en rendre compte.
Extrait en sol majeur de « Au hasard heureux », qui paraît donc chez Viviane Ami. Cette révélation de soi-même à travers un tableau, Mehtab Teke, m'a fait penser au portrait de Dorian Gray, qui demande au peintre que le tableau vieillisse à sa place, pour remémorer. Est-ce qu'un tableau, selon vous, peut influencer une destinée ?
Toute forme d'art peut influencer une destinée. Et c'est ça qui est beau dans l'art. C'est une manière de changer des destinées et de rendre les hommes et les femmes meilleurs.
Alors cette séquence dramatique là que vous venez de nous lire, puisque dans un premier temps Adélaïde réalise que dans ce tableau peint par son ami Iba, finalement c'est son autoportrait, et c'est un autoportrait terrifiant. Cette séquence en fait va renverser la construction mentale que ces deux femmes avaient l'une envers l'autre.
Oui.
Pas immédiatement, bien sûr, pas immédiatement. Il va y avoir un petit claquage de porte, un grand silence entre elles. Mais elles vont se retrouver et il va y avoir une relecture, finalement, de leur rapport et de cette emprise que l'on croyait être en place.
Tout à fait. Parce qu'en fait, avec cette découverte, on va dire, du talent de Iba, du même talent qu'elles partagent, de la même passion qu'elles ont, finalement, pour cet art-là, c'est à ce moment-là une révélation de leur similitude. Adélaïde se rend compte qu'elles sont pareilles. Et donc ça permet de les rééquilibrer, parce qu'à chaque fois on a un déséquilibre dans leur relation, et on n'a plus cette aura de Iba qui la rend supérieure, elle devient un être humain comme Adélaïde.
À la fin du roman, l'une ne se suicide pas, l'autre se remet à peindre. Qui a sauvé qui finalement ?
Je pense qu'elles se sauvent l'une l'autre, au final. Voilà, en fait, il fallait cette rencontre qu'elles doivent au hasard heureux. Mm-hmm. Je vais placer le titre.
Oui, on ne dira pas la clé de ce titre.
Exactement. Et il fallait cette rencontre pour leur permettre justement de se sauver et de comprendre. Si elles ont réussi à sauver l'autre, c'est qu'elles ont les moyens de se sauver elles-mêmes, dans un sens.
Quel est le sujet de ce roman ?
Alors moi, je dirais que le sujet, principal, pour moi, c'est le bonheur. C'est un peu sa manière à elle de se rendre compte qu'elle va bâtir son bonheur, parce que personne ne va bâtir son bonheur à sa place, je dirais.
Est-ce que vous pourriez écrire ce même roman en turc ?
Non. Moi, la langue que je maîtrise, c'est le français. Je pourrais même pas l'écrire en anglais, par exemple, que je maîtrise très bien aussi. Parce que c'est pas simplement mettre des mots bout à bout. Il faut aussi avoir une façon de raconter, etc. Je pense que c'est un exercice très difficile, même en français. Même si on maîtrise une langue, on ne sait peut-être pas forcément écrire un livre dans cette langue, je pense. Donc c'est déjà difficile dans sa langue. Donc je ne m'y aventurerai pas.
Et pourtant, il me semble savoir que la langue turque ponctue quand même votre quotidien. Il y a des choses que vous ne pouvez dire qu'en turc.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est parce que j'ai grandi dans la langue turque au départ. Donc, mes parents ne parlaient que le turc à la maison. Ma langue maternelle, c'est le turc. Et j'ai appris le français à l'école. Et aujourd'hui encore, il y a des mots, baba pour dire papa, anne pour dire maman, ou hala pour dire ma tante paternelle.
D'autres. Tous les membres de la famille.
Les membres de la famille. Ça, c'est certain que ça vient en turc. Et puis, il y a d'autres mots, je ne sais pas pourquoi. Sepet, la manne à linge, qui me vient en turc à chaque fois.
Là, je n'ai pas compris.
La manne à linge. Je ne sais pas si c'est belge, peut-être. Mais en tout cas, c'est le panier à linge, pardon. Et donc, ce sont des mots, etc.
Le plurilinguisme, là. Oui. Oui, ça vient. Le village aussi.
Oui, le village, en fait, c'est le cueil. On appelle ça cueil. Et en fait, c'est parce que quand on était petite, quand on allait en vacances, on allait au village, bien sûr. Et nous, on disait, bon, va au cueil.
Alors, retour sur la terre ancestrale du côté d'Istanbul. Lorsqu'aujourd'hui, on va sur Internet, je ne sais pas si vous vous promenez là-bas de temps à autre, on peut tomber, par exemple, sur Fi. C'est une série turque qui raconte l'histoire d'un psychiatre star et totalement séducteur, qui poursuit son obsession dangereuse pour une danseuse, tout en veillant à ne pas dévoiler son passé trouble. Est-ce que vous la regardez, cette série ?
Non, je ne connais pas du tout.
Petite séance de rattrapage.
Lulu, çiçekleri sizin bahçeye mi bırakmışlar? Memlekette bir kişi bile işini doğru düzgün yapmıyor. Çok affedersin.
Yo, ya ben de bayağı şaşırdım zaten. Nereden çıktı bunlar diye. Meğerse bana değilmiş tabii ki.
Çiçekler burada kalsın.
Yok, istemem. Çok teşekkür ederim.
Çok saçma oldu. Affedersin. Bir hanımefendiyi mutlu etmeye çalışırken başka bir hanımefendiyi mutsuz eden adamındır ama.
Pour vous, le pays d'origine est synonyme de quel mot?
Alors, c'est une très bonne question. Je dirais parents, peut-être. D'où viennent nos origines, premièrement, parce que ça compte, finalement. Et puis aussi, dans mon cas, c'est différent, parce que moi, je suis née aussi en Belgique. Donc, c'est aussi adoption, je dirais aussi, parce que ça construit ma culture, mon identité, finalement, d'être née et d'avoir grandi en Belgique. Et puis au-delà de ça, j'ai vécu plus de 15 ans peut-être en dehors de la Belgique. Donc de nouveau, c'est très difficile en fait comme question. J'ai l'impression d'être un peu de partout au final.
Mais si on reste sur une seconde sur la Turquie, on a la sensation que c'est plus la Turquie d'autrefois. La Turquie d'aujourd'hui, la Turquie d'Erdogan. Oula, vous faites les yeux au ciel.
Non, ben c'est parce que surtout moi j'ai tous mes souvenirs principalement viennent de mon enfance, quand moi j'allais au village
j'ai
en
compris.
Turquie.
Mais donc la Turquie, c'est juste un souvenir.
C'est plus que ça quand même. Moi, j'ai la nationalité turque, je vote aux élections.
Ah, bah alors la Turquie d'Erdogan, ça vous concerne?
Bien sûr, ça me concerne. Je rigole, mais je garde toujours un œil sur la Turquie. Je me soucie beaucoup de l'avenir de la Turquie, du futur de ce pays, de ses habitants. J'ai ma famille qui vit là-bas. Donc,
mais ça ne peut pas être un sujet littéraire, par exemple?
Si, ça pourrait être un sujet littéraire, je pense. Je pense que je maîtrise bien la culture turque aussi, enfin, la manière de penser des Turcs, donc leur histoire. Donc pour moi, je pense que ça pourrait, être l'objet d'un livre.
Alors il y a la terre, puis il y a l'histoire. Et je vous ai demandé, parce que ça fait souvent partie des questions au sol majeur, quel était le chapitre d'histoire qui était resté important pour vous? Vous m'avez répondu la Révolution française. Alors via le film de Vajda, en 1983, que vous avez peut-être vu, je vous offre une minute de tête-à-tête entre Maximilien de Robespierre et Georges Danton.
Je croyais que tu buvais pas. Qu'est-ce que tu veux de moi ?
Ce ton direct me plaît. Tu vas publiquement annoncer que tu te rallies à nous, Georges.
Impossible.
Pourquoi ?
Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit.
Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi.
Mais tu veux quand même pas que je me rabaisse devant eux, non?
Tu te crois au-dessus du gouvernement?
Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi tu les méprises, seulement moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne. Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution.
Et qui en est coupable?
Oh. C'est pas à moi. Puis c'est certainement pas à toi non plus. Mais alors si nous ne sommes pas coupables, c'est la nature des choses.
Mais je n'ai jamais cru à la nature des choses.
Moi non plus. Moi non plus. Au fond, nos convictions sont les mêmes.
Dans votre en sol majeur, Mehtab Teke, deux figures romancées pour le cinéma de la Révolution française qui ont renversé la monarchie, mais on le sait bien, je vous apprends rien en semant la terreur. Qu'est-ce que vous gardez, vous, de positif de cette Révolution française ?
Moi, ce qui me fascine dans cette partie de l'histoire de la France, c'est la manière dont c'est un peuple qui a décidé pour soi de renverser finalement la tyrannie du monarque et de choisir sa destinée. Et aussi de s'élever contre les injustices qui les touchaient. Je suis vraiment très sensible aux injustices sociales, surtout. Bon, bien sûr, après, par la suite, la terreur, etc., c'était pas rose non plus. Mais au final, dans l'acte en lui-même, je trouve ça, il y a vraiment un côté même romantique, finalement. D'avoir,
voilà, ce que j'allais vous dire, c'est l'expression politique d'un idéal romantique.
Tout à fait.
Alors aujourd'hui, vous-même, vous vivez assez loin de cet idéal, puisque vous vivez à Dubaï. Pour le boulot, vous faites quoi d'ailleurs dans la vie ?
Alors moi, je travaille dans la communication, dans l'industrie pharmaceutique, ce qui n'a rien à voir avec la littérature.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début de votre parcours, quand vous étiez encore à Bruxelles, en fait, vous souhaitiez faire du journalisme. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc j'ai commencé des études de journalisme et je me suis rendu compte, j'allais dire à tort, mais non pas à tort, que je n'avais pas le caractère pour être journaliste.
C'est quoi le caractère ? Les
journalistes sont beaucoup plus, audacieux, je pense, que moi. Moi, je suis très timide. Et en fait, quand je devais faire des interviews dans le cadre de mes études, je me souviens que je n'arrivais pas à insister, par exemple, pour avoir... Et c'est difficile parce que la personne vous dit non. Et mes amis de journalisme, eux, ils insistaient, ils rappelaient, ils n'avaient pas peur, ils allaient. Et moi, j'ai l'impression quand on me dit non, ben merci, au revoir, vous ne me reverrez plus jamais, c'est bon. Je ne pouvais pas insister, etc. Et j'étais incapable de le faire.
En tout cas, aujourd'hui, vous vivez à Dubaï. Après, quand même, vous êtes beaucoup, beaucoup baladé dans le monde. Vous avez vécu en Inde, au Japon, donc aux États-Unis, à Singapour. Est-ce qu'il y a... Vous avez parlé un petit peu de votre ancrage en Belgique. Je ne sais pas si c'est Charleroi en particulier où vous êtes né, où vous avez un sentiment comme ça d'appartenance. Mais est-ce qu'il y a des mondes où vous vous sentez être dans une forme d'attachement viscéral ?
En fait, j'ai une bonne... capacité d'adaptation, je pense. J'arrive à m'adapter facilement aux différentes cultures, aux différentes personnes. En tout cas, ou alors ça m'a forgé ce caractère-là, de voyager un peu partout, parce qu'il fallait se débrouiller, et puis il fallait s'adapter et se faire des amis là-bas. Donc il faut être une sorte de caméléon, je pense, dans son caractère, pour pouvoir s'adapter aux différentes personnes.
Au point de vous adapter à une ville comme Dubaï, qui est, vous allez me contredire peut-être, de l'extérieur, on en parle comme d'une ville bling-bling, par excellence, où il y a des injustices, vous qui êtes... vous n'aimez pas ça, les injustices, mais on parle d'une main-d'œuvre souvent d'origine africaine qui est, exploitée. Comment vous faites ? Comment votre côté caméléon s'arrange de tous ces aspects de Dubaï ?
Moi, ça fait près de 10 ans que je vis à Dubaï. Moi, ce que j'aime bien à Dubaï, c'est qu'il y a une forme de tolérance, finalement. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens de tout milieu, de toute origine, de toute culture, de toute religion qui vivent ensemble. Moi, c'est un truc que je vois. Et puis, je suis vraiment très, très loin de cette image bling-bling. Honnêtement, je ne connais même pas dans mon entourage des gens qui vivent vraiment comme ça. Je sais qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux de Dubaï, en plus, des gens sur leur yacht, etc., qui font la fête. Honnêtement, j'ai pas souvent vu ça, et même dans mon entourage, je côtoie des gens normaux, quoi. Enfin, je veux dire, des gens comme moi, donc...
Des gens comme vous, c'est des expats ?
Des expats, oui, bien sûr, mais je veux dire, quand je dis des gens comme moi, je veux dire des gens qui sont pas bing-bing, je veux dire, en tout cas.
C'est un dur métier que l'exil, ça c'est ce que vous mettez en exergue de petite, je disais que je voulais me marier avec toi, c'est signé Nazim Hikmet, et c'était dans ce livre-là une allusion à l'exil de vos parents, vers la Belgique, mais vous qui êtes la fille de vos parents, est-ce que l'exil, c'est un sentiment que vous connaissez finalement ?
Sans doute, je pense. Déjà, le simple fait d'être née dans un pays et de venir d'ailleurs, c'est une forme d'exil, même si je ne suis pas née en Turquie et que je n'ai jamais vécu en Turquie. J'ai été naturalisée belge à mes 18 ans, par exemple. Jusque-là, j'étais turque. Et je suis toujours turque, mais je veux dire, voilà, j'avais une seule nationalité. Et c'est aussi une forme d'exil, parce que quand on rentre dans le pays d'origine, nous, on veut être comme les Turcs. On est des Turcs, dans notre tête, on est Turcs. Et puis pour eux, ils n'ont peut-être pas la même perception, parce qu'on vient d'ailleurs, donc peut-être qu'ils considèrent que la culture, elle est trop mixée pour pouvoir s'assimiler à la culture turque, mais au fond, c'est une forme d'exil en soi.
Petite sœur, petit frère, ça va être l'heure d'Ayam. Pourquoi les Marseillais ?
Alors ça, c'est mon adolescence. Moi, j'étais adolescente dans les années 90, j'allais dire 90. Donc voilà, j'étais donc adolescente dans ces années-là et je pense qu'on écoutait tous Ayam. Mais moi, ce que j'aimais bien, moi j'étais jeune, donc c'est difficile de m'exprimer à cette époque-là, mais eux parvenaient à parler pour nous finalement, à poser des mots sur toute une génération, parler de, voilà, mettre des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X justement, de toute cette génération, ma génération en tout cas.
Petit frère n'a qu'à souhait de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains ont giclé Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides, alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées plus de cire. Dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de sept lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
De fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Mehtab Teke, la bande-son de notre invité en trois coups de plume. Premier coup.
On est flot dans la foule, âme dans la tempête, tout vient et passe. On est en deuil, on est en fête. On arrive, on recule, on lutte avec effort. Puis, le vaste et profond silence de la mort.
Deuxième coup.
Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece.
Troisième coup.
Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne. Méfie-toi, séparés, nous tomberons tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. Et le peuple qui nous a portés déchirera la révolution.
Tout ça est à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio avec Caroline Filliette, Théo Raison, Yasmine Chouaki. La semaine prochaine, c'est un ensemble majeur un peu stand-up avec une certaine Fadili Camara. Dans un instant, votre journal suivi de la marche du monde.